18h21 du Grain à Moudre, Hervé Gardette.
Merci Aurélie Kiefer. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. De l'aérien au ferroviaire, Jean-Cyril Spinetta, l'ancien PDG du groupe Air France KLM, vient d'être chargé par le gouvernement d'une mission de réflexion sur l'avenir de la SNCF. L'annonce a été faite hier à l'occasion du lancement des Assises de la mobilité. Sa feuille de route, réfléchir aux conditions d'une transformation réussie du secteur ferroviaire. Sous-entendu, comment préparer l'entreprise à l'ouverture à la concurrence imposée par l'Union européenne. Alors à vrai dire, la concurrence existe déjà dans le ferroviaire français. Le transport de marchandises y est soumis. Pour les voyageurs, cela se fera en deux temps. D'abord les lignes régionales fin 2019, puis les lignes à grande vitesse fin 2021, sachant que ces dates sont aléatoires dans la mesure où la mise en place effective de cette concurrence prendra davantage de temps. Pour la SNCF, le défi est d'autant plus important que l'entreprise est fragilisée par sa dette, 50 milliards d'euros. Une dette que l'État serait prêt à racheter en échange d'une réforme des régimes spéciaux de retraite. C'est le deal imaginé par Emmanuel Macron. Pour certains syndicats, il s'agit d'un marché de dupes, un signe supplémentaire d'une privatisation rampante qui serait déjà largement engagée via la création de dizaines de filiales par l'opérateur historique. Alors jusqu'où privatiser la SNCF ? C'est la question que nous posons ce soir à trois invités, à commencer par vous, Louis Nègre, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Cagnes-sur-Mer, vous êtes encore sénateur pour quelques jours, mais vous ne vous représentez pas à l'occasion des prochaines élections. Vous présidez la Fédération des industries ferroviaires et vous êtes le co-auteur d'une proposition de loi que vous avez présentée au début de ce mois, relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Pour discuter avec vous, Bruno Poncet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail, un des principaux syndicats à la SNCF. Vous considérez que la proposition de loi, c'est ce que j'ai lu dans un communiqué de Sudrail, proposé par Louis Nègre, vise, alors en tout cas équivaut, à démanteler justement l'entreprise SNCF. Et puis notre troisième invité, c'est Gilles Dansard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous dirigez une lettre qui est spécialisée sur les mobilités. Elle s'appelle Mobilettre.
C'est ça.
Voilà, je rappelle d'ailleurs que les Assises de la mobilité qui doivent beaucoup vous occuper ces jours-ci, elles ont été lancées hier, elles sont censées durer trois mois. Alors, on a fait exprès, comme souvent, dans le titre, d'aller peut-être vers un titre assez maximaliste en évoquant donc cette privatisation de la SNCF. Jusqu'où privatiser la SNCF ? Bruno Poncet, est-ce que c'est un terme, celui de privatisation, qui vous paraît approprié pour parler à la fois des évolutions en cours et à venir de la SNCF ?
Oui, c'est clairement l'objectif annoncé depuis 2014, et, enfin même avant, mais parce que l'ouverture à la concurrence est ouf. Et donc un départ aussi de la privatisation que nous on vit depuis 2006 au fret. Mais oui, effectivement, le terme privatisation, nous on le réfute. Et donc votre émission a un petit peu aurait dû s'appeler quand même « Pourquoi ne pas privatiser SNCF ?» Et nous on va vous expliquer pourquoi il ne faut pas la privatiser, parce que c'est une catastrophe, on l'a vu au fret.
Louis Nègre ?
On est d'accord avec notre collègue syndicaliste du Sud. Et parce que j'ai jamais proposé la privatisation. Jamais. C'est un fantasme. J'ouvre à la concurrence. Je prévois l'ouverture à la concurrence. Ça veut dire quoi ? Quand vous privatisez, ça veut dire que vous vendez les bijoux de famille. Pas du tout. Il n'en est pas question. Moi, je veux sauver. Au contraire, le soldat SNCF, c'est tout à fait différent. Mais par contre,
Est-ce que le terme alors de privatisation du transport ferroviaire serait plus approprié pour évoquer justement cette ouverture à la concurrence ?
Pas plus, pas moins qu'aujourd'hui, par exemple, dans le transport urbain, où vous avez effectivement des délégations, ce que l'appelle une délégation de service public, une sorte de concession, où nous avons des cahiers des charges avec des appels d'offres qui sont faits par les communes, les grandes villes, de droite comme de gauche d'ailleurs, et qui font appel à des opérateurs. Et ces opérateurs-là peuvent être une régie, c'est-à-dire un interne, mais ça peut être un opérateur extérieur. Et à ma connaissance, ça fonctionne pas trop mal.
Gilles Dansard.
Oui, je vais être un peu parfois juge de paix dans cette émission et essayer de spécifier un peu les choses. Contrairement à certains pays qui ont choisi une privatisation assez massive, c'est-à-dire y compris de l'infrastructure, ça n'est pas du tout le cas en France. En France, l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire les quasi 36 000 km de voies, l'ensemble des centres de supervision, d'aiguillage, etc., sont 100% monopole d'État. Donc ça, il n'y a aucun projet de toucher à la propriété de ce patrimoine ferroviaire. Ça, c'est la première chose.
On est d'accord là-dessus, c'est clair.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle les services ferroviaires, c'est-à-dire les TER, les TGV, les intercités, le fret, qui est déjà ouvert à la concurrence. Et là, il est clair que sur l'ensemble de ces services, il y a une perspective de généraliser les appels à concurrence. Alors, quand on dit généraliser les appels à concurrence, ça ne veut pas dire qu'on va forcément imposer. Par exemple, les régions pourront choisir de continuer à attribuer à la SNCF l'exploitation de leur TER. Mais ces régions auront aussi la possibilité de procéder à des appels d'offres. Donc, on est quand même dans une concurrence extrêmement régulée. Donc, le mot privatisation n'est pas faux dans le sens où, effectivement, on fait appel à des acteurs privés, mais dans des cadres extrêmement organisés. Le transport ferroviaire, ça n'est pas l'auberge espagnole.
Alors, avant d'examiner peut-être d'un petit peu plus près ce qui attend justement le transport ferroviaire et donc la SNCF dans les années à venir, j'aimerais avoir votre appréciation sur ce processus d'ouverture à la concurrence qui existe déjà, en l'occurrence pour le fret ferroviaire. Ça fait, c'était 2006 je crois, donc ça fait 11 ans que le fret est ouvert à la concurrence en France, plus, s'agissant du transport voyageur, le transport international, il y a une ligne, en tout cas il y a une compagnie qui s'appelle Tello qui fait des liaisons entre la France et l'Italie, Bruno Poncet de Sudrail. Est-ce que les craintes que vous pouvez peut-être avoir d'une ouverture à la concurrence sont justifiées au regard du bilan de cette ouverture et dans le fret et dans le transport international?
Je peux vous donner quelques chiffres. L'activité fret en 2006 c'était presque un peu plus de 15 000 agents, aujourd'hui c'est à peine 6 000. Ensuite, quand ça a été ouvert, on avait l'envie du gouvernement et de l'entreprise était de dire on va doubler le trafic ferroviaire de marchandises, qui était à l'époque dans les 13-15%. Aujourd'hui, on est en dessous des 10% de transport de marchandises par le ferré. La concurrence déloyale est arrivée par la route, avec des conducteurs de camions qui conduisent sur le territoire français pour 300 euros. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ce dumping social fait que le transport ferré de marchandises, mais qu'il soit alors SNCF ou les entreprises privées, est un gouffre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise privée, purement privée, hein, c'est-à-dire pas du tout une filiale, purement privée, qui est rentable. C'est-à-dire que vous avez Europort, ECR qui est allemand, qui vient, c'est European Cargo Railways, qui vient, qui est une filiale de la DB, l'Allemagne. Tout ça, ce sont des entreprises qui sont au bord du gouffre.
Gilles Dansard, et même question à Louis Nègre, l'ouverture à la concurrence dans le fret, ça s'est fait au détriment et de la SNCF et des opérateurs privés ?
Ça s'est fait sur un corps malade, c'est-à-dire le fret ferroviaire en France se cassait la gueule depuis déjà les années 90. Il faut se souvenir que pour un cheminot dans les années 70, ce qui était noble, c'était le fret, c'était pas les voyageurs. Hein. Bon, et donc pour un certain nombre de raisons, notamment la croissance du trafic routier, des infrastructures routières, le dumping social, toutes sortes de raisons auxquelles on pourrait revenir, ça s'est cassé la gueule. Et là-dessus, on a ouvert et ça a provoqué un écroulement de la SNCF, puisque du fret SNCF, puisque elle a perdu quasiment la moitié de son monopole en 11 ans. Elle est aujourd'hui quasiment à 50% de part de marché. Et ça a provoqué la croissance d'entreprises privées. Là-dessus, il y a eu des crises, la crise de 2008, etc., qui ont fait que tout ça n'était pas bien dynamique. Mais on peut pas... pendant longtemps, on a dit c'est l'ouverture à la concurrence qui a fait s'écrouler le fret ferroviaire. C'est pas vrai. Il y a d'autres raisons, notamment la politique publique, qui font que le fret ferroviaire était en mauvaise santé et qu'il n'est pas encore en bonne santé parce que l'État n'y consacre pas d'argent.
Louis Nègre.
Oui, je suis assez d'accord avec le juge de paix. Je pense que l'ouverture à la concurrence sur un grand corps malade a conduit avec un manque de préparation. C'était annoncé, c'était un texte de 2004, on ouvre en 2006, on aurait pu se préparer, on ne l'a pas fait. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu une mauvaise volonté évidente de la part d'un certain nombre d'acteurs. Quand j'entends ceux qui ont essayé de développer le fret privé, entre guillemets, ils me racontent leur déboire, ça n'a pas été si facile que ça. Et après, troisième raison, qui est aussi une raison très objective, c'est que la route a été beaucoup plus réactive et on s'aperçoit que même dans des pays où le ferroviaire se porte bien, comme l'Allemagne, la route continue à être très largement dominante par sa réactivité, sa capacité à être de porte à porte. Donc le fret aujourd'hui doit se remettre en question tel qu'on a pu le concevoir dans les temps anciens.
Est-ce que le transport voyageur devrait lui aussi se remettre en question? Est-ce qu'on peut parler également à son sujet, puisque c'est l'étape d'après, même si bon, on parlait de cette ouverture à la concurrence pour le transport international, mais qui est quand même extrêmement réduit aujourd'hui avec une seule compagnie et avec des liaisons qui sont quand même très, très limitées. Pardon Bruno Poncet ?
Qui est au bord du gouffre. Aujourd'hui, Tello fonctionne. Alors déjà, il faut savoir que Tello, c'est du matériel. Les locks qui sont en tête de Tello, c'était des locks qui avaient été achetés par le fret à une époque.
Qu'est-ce que vous appelez des locks ?
C'est des locomotives, excusez-moi.
D'accord, là, des locomotives.
Je parle comme un cheminot.
Comme
un cheminot,
mais vous en êtes pas.
Et donc, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, vous avez du matériel qui est plus qu'obsolète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu des plaintes comme quoi il y avait des puces dans le train. Enfin voilà. Et ces trains-là ne sont pas remplis. Donc, cette ligne-là est aujourd'hui. Alors, quand je vous dis à l'agonie, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais même pas pourquoi elle roule encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si elle roule encore, parce qu'elle est encore subventionnée, mais sinon, elle ne devrait plus rouler. Donc voilà, vous avez un exemple criant d'une mauvaise ouverture à la concurrence et à la privatisation. Vous avez encore un exemple là-dessus.
Est-ce qu'on pourrait dire, justement, Louis Nègre, que c'est le sens de la proposition de loi que vous avez présentée début septembre, que de préparer au mieux ce que sera cette ouverture beaucoup plus large, voire totale, à la concurrence dans le trafic voyageur, à la fois pour les lignes grande vitesse et pour les lignes régionales et intercités pour faire vite, c'est-à-dire d'essayer de préparer au maximum en amont pour que ça se passe mieux que ça ne s'est passé, par exemple, pour le fret.
Pour moi, l'ouverture à la concurrence n'est qu'un levier, n'est qu'un outil. C'est pas l'alpha et l'oméga. Si la SNCF fonctionnait bien, si les voyageurs étaient contents du service, on n'aurait pas besoin d'ouvrir à la concurrence, puisque le système fonctionnerait bien. Le problème, c'est que le système dysfonctionne. Et on constate, par exemple, dans la région PACA, nous avons même une association qui s'est créée, qui s'appelle les naufragés du TER. Mais il n'y a pas que la région PACA, il y en a d'autres. Donc, on constate que ce système, avec un opérateur historique national qui a le monopole, à ce moment-là,
avec des collectivités locales qui ont aussi quand même un certain nombre de pouvoirs sur la question du transport.
Vous voyez, quand nous, en tant que sénateurs, avec le président de la commission, Hervé Maurey, nous posons 18 questions par écrit à la SNCF, à ce jour, donc plus de 2 mois après, nous n'avons toujours pas reçu le début d'une réponse. Donc, le système est un système fermé. C'est un système opaque dans lequel nous réclamons de la transparence. Et surtout, nous réclamons un service pour les usagers.
Alors, je vais revenir vers vous, Gilles Dansart, mais juste sur ce que vient de dire Louis Nègre, Bruno Poncet, c'est parce que ça fonctionne mal qu'il faut ouvrir le trafic ferroviaire, et notamment des voyageurs, à la concurrence. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là ?
Moi, je dirais même que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que moi, je comprends ce qu'il vient de me dire, monsieur Nègre. Parce que nous avons été reçus, Sudrail, comme les autorisations syndicales, par les régions de France, au mois de juillet. Et quand nous sommes arrivés en phase 2, ils ont vu en nous des cheminots et des représentants de la SNCF, et pas des personnes qui combattent un système qui est pour nous une catastrophe pour le service de transport ferré. Et donc, ils nous ont attaqués en disant « Ouais, vous faites n'importe quoi », comme a dit monsieur. Alors en plus, il y avait quelqu'un qui venait de la région PACA. « Vous faites n'importe quoi, c'est pas bien ». Et nous, on leur a dit « Oui ». Aujourd'hui, l'entreprise, la politique qui est mise par l'entreprise depuis plusieurs années, mais encore plus depuis 2014, fait qu'aujourd'hui, effectivement, personne n'est satisfait, ni les usagers, ni les cheminots. Et ce qui se passe aujourd'hui, nous, le problème qu'on a, c'est que nous, on voit cette détérioration du service qui vient aujourd'hui sur la vraie raison, c'est cette dette que les cheminots payent, que les usagers payent, et qui fait qu'aujourd'hui, nous, les cheminots, on les paye dans nos conditions de travail par un dumping social qui se fait aussi au sein de la SNCF. Et cette dette-là, si demain, M. Macron nous dit qu'il la retire, parce qu'elle est à lui, déjà, elle est à l'État français, il la retire, vous verrez, la SNCF sera capable, avec cet argent qu'elle met dans les frais financiers de la dette, elle sera capable de réinvestir dans du matériel et dans les voies ferrées. Et
juste encore un mot, Bruno Poncet, est-ce que vous diriez que cette mauvaise façon, disons, de gérer peut-être l'entreprise est une démarche délibérée, justement, pour préparer l'ouverture à la concurrence?
Moi, je voudrais être un peu plus loin que ça, mais depuis 1980, et M. Mitterrand avec ses beaux TGV orange pour aller sur l'Ouest, c'est plutôt une stratégie de l'État qui fait un... Enfin, il n'y a pas de stratégie, quoi. On appelle ça l'État stratège. Ah, c'est plutôt l'État non stratège. Regardez juste un exemple, mais qui est très simple. L'écotaxe. Moi, je travaille au fret. Quand l'écotaxe a été mise en place et qu'on allait la mettre en place, on nous a dit ça va sauver le fret. Il y aura des subventions qui vont revenir au transport ferré, les camions reviendront sur les trains, vous verrez, ça va sauver le fret. Écotaxe abandonnée, et alors on se demande toujours pourquoi. Parce que nous, des fois, dans la rue, on est plusieurs millions, on n'abandonne pas les projets de loi. Là, j'ai vu, il y avait quelques Bretons, hop, plus de loi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écotaxe disparue. Je vous raconte pas le gouffre financier que ça a été, mais surtout pour nous, les cheminots du fret, ça a été une catastrophe.
Gilles Dansart, pour remettre peut-être quelques balises par rapport à cette question de l'ouverture à la concurrence, parce qu'à entendre Louis Nègre et Bruno Poncet, c'est quelque chose qui dépendrait uniquement d'une volonté politique, qui serait une volonté politique nationale. Alors il faut peut-être quand même rappeler que c'est une décision qui s'est prise à l'échelle européenne. Donc on est quoi, dans une forme d'obligation déjà d'ouvrir à la concurrence? Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'alternative?
Si, il y a un choix. Il y a ce qu'on appelle le quatrième paquet ferroviaire qui fixe un certain nombre de règles, mais les collectivités, comme je le disais tout à l'heure, auront le libre choix du système à suivre. Donc c'est pas une obligation, mais c'est vrai que l'Europe a joué un gros rôle pour harmoniser les réglementations et les cadres législatifs dans l'ensemble des pays européens.
S'agissant du calendrier, d'ailleurs, est-ce qu'on peut préciser, en fonction des articles que j'ai pu lire, je retrouve jamais exactement les mêmes dates sur l'effectivité, en tout cas, de l'ouverture à la concurrence, qu'il s'agisse des lignes grande vitesse ou des lignes régionales ou intercités. Donc, ça va se passer quand, normalement?
De fait, le gouvernement français a tout fait pour repousser le plus loin possible. Donc, ça a beaucoup troublé les consciences. Après, il y a ce qui est possible. Ça n'est pas possible de lancer la concurrence en un an ou deux ans, parce que, par exemple, la réservation des sillons, qui est un élément important de l'offre ferroviaire, doit se faire deux ans à l'avance. Donc, on ne peut pas faire ça déjà. Il faut trois ou quatre ans sérieusement avant que ce soit possible. Donc, faut pas espérer ou craindre une ouverture à la concurrence avant 3 ou 4 ans. Il y a deux arguments en faveur de la concurrence, outre le fait qu'il faut améliorer la performance. Mais la performance, ça sera aussi meilleure pour les usagers, parce que l'infrastructure, que ce soit les voies, les signalisations, les équipements électriques, les gares sont performantes. Ça, c'est un présupposé. Mais après, il y a deux arguments en faveur de la concurrence. Premièrement, ça va obliger la SNCF à s'améliorer. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. C'est un argument qu'on a beaucoup tiré de l'expérience allemande, où l'ADB, la Deutsche Bahn, s'est beaucoup améliorée suite à l'ouverture du marché à des entreprises privées. Et d'ailleurs, la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF en Allemagne, conserve une part de marché absolument dominante. Elle ne s'est pas écroulée. Elle a réagi et elle s'est mise aussi bien au niveau de la performance, de la qualité du service que des coûts, au niveau de ses challengers. Et deuxièmement, et c'est là où c'est ça qui fâche aujourd'hui, il y a la question des coûts. On considère aujourd'hui, selon les études, que le coût au kilomètre, le coût train kilomètre, qui est un peu l'indicateur moyen en Europe, il est pour la SNCF de 20 à 30% plus cher que d'autres opérateurs. Et que donc, un des objectifs de la concurrence, c'est de donner aux régions, qui sont les principales donneurs d'ordre, plus de moyens financiers avec des coûts qui seraient en baisse.
Louis Nègre, qu'est-ce que la SNCF pourra faire de mieux, selon vous, une fois que la concurrence existera à 100% dans le transport de voyageurs?
On ne va pas inventer l'eau tiède. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les pays européens qui ont ouvert à la concurrence. Vous prenez par exemple le système anglais, qui a été une catastrophe absolue avec des morts à l'arrivée dans la première phase. Ils s'en sont rendus compte, ils avaient fait une erreur, ils ont libéralisé de manière sauvage et ça a conduit effectivement à des accidents mortels.
Bien, ils ont renationalisé l'infrastructure, c'est ça.
Ces gens qui sont parmi les plus libéraux au monde ont renationalisé. Ils sont capables de faire ça, c'est du pragmatisme anglais. Par contre, donc, on est tous d'accord, tous les trois autour de cette table, pour dire, moi le premier, qu'au niveau du réseau, c'est un monopole naturel. Par contre, les trains qui vont circuler sur le réseau, eux, se sont faits par des opérateurs, et ces opérateurs, ça peut être la SNCF en tant qu'opérateur historique national, mais ça peut être un opérateur autre. C'est ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe en Italie. Alors, pourquoi je suis favorable à la concurrence et pourquoi je me bats pour ouvrir à la concurrence? C'est pas tout et n'importe quoi. On le fait dans un cadre maîtrisé et je demande cette ouverture parce que, un, le système dysfonctionne.
Enfin, vous la demandez de toute manière, l'Europe deux, la demande. C'est pas vous, Louis Nègre, qui l'a demandé.
Ça fait 8 ans que je me bats, on y arrive. Bon. Mais l'Europe le demande avec l'accord des autres pays. Attendez, ouais. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'Europe à bon dos. Attendez, c'est toujours la faute à Bruxelles. Non. La faute à Bruxelles, c'est les États autour, les États-nations qui sont autour de la table et qui décident ensemble si l'Allemagne et la France ne sont pas d'accord sur quelque chose, l'Europe ne bouge pas.
Bon. En tout cas, donc vous la voulez, donc, pourquoi? Parce que ça va faire baisser les prix?
Voilà. Ça va faire baisser le coût pour le contribuable. On est le pays d'Europe qui a le plus de prélèvements sociaux, c'est-à-dire d'impôts et de taxes. Les Français en ont ras-le-bol. Et on s'aperçoit qu'à côté de chez nous, au-delà du Rhin, vous avez le même service train kilomètre qui coûte 20 à 30% moins cher, avec les services au moins équivalents, sinon meilleurs. Donc, bêtement, logiquement, vous vous posez la question, pourquoi moi qui lève des impôts, je suis élu, je lève l'impôt, j'ai ce privilège et j'ai cette responsabilité forte, je veux avoir au minimum un bon service au moindre coût.
Bon, Bruno Poncet, ça c'est un argument qui a priori est assez imparable. S'il y a ouverture à la concurrence, je vais payer moins cher mon billet de train et peut-être que du coup je prendrai davantage le train et que tout le monde en profitera, et la SNCF et ses concurrents.
Là il y a un leurre, il y a un vrai leurre, parce que l'ouverture à la concurrence se fait dans la partie exploitation du réseau, on est bien d'accord. Mais la partie entretien et maintenance du réseau, qui est donc réseau, qui génère les péages, ça restera toujours. Et moi, l'autre fois, je l'expliquais aux régions de France, ça a été une de mes interventions, je leur ai dit, vous pouvez demain exploiter, mais vous paierez toujours les péages. Et les péages aujourd'hui ne cessent que d'augmenter, parce qu'avec l'obsolescence du réseau, eh bien, l'entretien qui aurait dû être fait année par année ne se fait pas. On prend l'exemple de l'Allemagne, mais l'Allemagne aujourd'hui, par exemple, les caténaires, elles ont 10 ans, 15 ans. En France, elles ont des fois 40, 50 ans. Donc déjà, ce problème-là que nous avons en France, c'est l'entretien du réseau, cette maintenance. Demain, les régions, si elles doivent payer exactement l'entretien du réseau et donc au kilomètre, ça sera inabordable pour le train. Comme c'est nouveau fret. Aujourd'hui, les gens, et donc aujourd'hui, le fret, c'est régulé, les péages sont régulés. Et on attend encore la décision de l'État français pour savoir s'ils maintiennent une régulation afin que les péages n'explosent pas. Parce qu'aujourd'hui, on nous a annoncé, nous, des croissances dans les péages de 10 à 15% au fret. Et donc aujourd'hui, c'est déjà plus viable. Si ça remonte de 15%, c'est fini. Mais donc c'est un leurre.
Juste pour qu'on comprenne bien, quand vous parlez de l'augmentation des péages, vous n'évoquez que le coût pour les collectivités locales, en l'occurrence les régions. Les opérateurs privés, Gilles Dansart, n'auront pas à payer de péages?
Bien sûr, le péage s'imposera à tous les opérateurs.
Là, donc ça peut être aussi une forme de frein ou de barrière à l'arrivée massive d'une concurrence. Donc finalement, si de toute manière le prix est trop cher à payer par rapport à la rentabilité attendue, la question se réglera d'une certaine manière d'elle-même, non?
Oui, puis c'est sûr que d'une certaine façon, si les péages sont trop chers, le prix du billet de train sera trop élevé et il y aura moins de monde dans les trains. Mais très clairement, là, on paye le prix de 30 ans. De sous-investissement sur le réseau ferroviaire. Et là, la responsabilité, elle est conjointe. Elle est conjointe. Les politiques, parce que ministres successifs qui n'ont pas consacré les crédits nécessaires à l'entretien du réseau quotidien qu'on célèbre aujourd'hui à l'envi, on a tout mis sur le TGV. L'entreprise SNCF a cautionné ce choix pendant très longtemps, il faut aussi l'avouer, n'a rien dit par rapport à cette priorité-là, a foncé tout droit parce que c'était vraiment valorisant pour l'entreprise SNCF. Les ingénieurs étaient fiers, l'ensemble des clients étaient fiers, les Français étaient fiers. Donc on a foncé là-dedans et on a mis de côté tout ce réseau quotidien. Et aujourd'hui, on a la gueule de bois. On a la gueule de bois, donc on a un réseau qu'il faut relever, mais ça se relève pas en 5 ans. C'est ça la spécificité du réseau ferroviaire. Il faut 20 à 30 ans. Et donc, on va porter pendant longtemps les conséquences de ça. Alors, il faut mettre des crédits, mais pour un gouvernement, quand on lui dit la politique, c'est à horizon 20 ou 25 ans, Louis Nègre sourit parce qu'il sait l'ADN du politique et cette élection à l'horizon, c'est difficile. Donc, il y a quelques gouvernements, dont le dernier, qui n'a pas forcément été brillant, mais qui a vraiment essayé de réinverser la tendance, avec le ministre Alain Vidalis, qui, suite à des accidents et à des rapports inquiétants, a remis du crédit. Mais ça, on ne reviendra à quelque chose de positif pour le ferroviaire qu'au au bout de 15-20 ans.
Alors que si je vous suis bien tous les trois, et je rappelle le titre de notre émission de ce soir, jusqu'où privatiser la SNCF, discussion avec le journaliste Gilles Dansart, avec Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail, avec Louis Nègre qui préside la Fédération des industries ferroviaires et qui est l'auteur d'une proposition de loi pour préparer l'ouverture à la concurrence dans le transport de voyageurs. Si je vous suis bien tous les trois, vous êtes en train de m'expliquer que finalement aujourd'hui la SNCF n'est pas prête à affronter cette ouverture à la concurrence. Non, c'est pas ce que vous dites,
Louis Nègre. La SNCF a les moyens humains, que ce soit au niveau des cheminots, que ce soit au niveau des cadres. Dès que vous prenez ces gens-là, c'est SNCF, vous les mettez à l'extérieur de la France, dans le monde international, ils sont capables aujourd'hui de récupérer des parts de marché dans les pays anglo-saxons.
Oui, mais je parle pas de la capacité des hommes, je parle de la situation aussi financière de la SNCF. Par exemple, prenons cette question de la dette. La dette, donc je crois, on arrondit toujours 50 milliards d'euros. Et cette proposition qui a été faite, des cheminots d'ailleurs, par Emmanuel Macron, de dire en gros, l'État reprendrait la dette et en échange, je résume, mais on va, il faut vous engager à revenir sur les régimes spéciaux. Est-ce que ça vous paraît une bonne façon de préparer l'ouverture à la concurrence?
C'est une dette qui fait 44 milliards et elle est sur une trajectoire d'État, l'État le dit lui-même, de 60 milliards. Bien entendu, elle ne sera pas soutenable à terme. Donc, ça fait des années et des années que je réclame, et effectivement, ce qui s'est passé en Allemagne, tout simplement, c'est que l'État récupère cette dette-là, remette les compteurs à zéro, et ça aidera, bien entendu, l'opérateur historique national à être plus performant.
En échange d'une réforme des régimes spéciaux?
Alors, à ce moment-là, le président de la République actuel, parce que je ne l'avais pas entendu avant, vient effectivement dire « il faudra faire ça sous forme d'un accord, j'allais dire, global, dans lequel on introduit les retraites, voire les conditions de travail, voire la durée, etc. » Donc il va y avoir des discussions fortes entre, je dirais, la SNCF, les syndicats.
Qu'est-ce que vous pensez, Bruno Poncet, de ce deal? On reprend la dette? Vous renoncez à vos régimes spéciaux?
Mais là, c'est du populisme. Enfin, moi, j'ai jamais. Enfin, personnellement, quand nous on entend ça, c'est sorti début juillet. Évidemment, ça ressort dans les médias juste avant le début du mouvement contre cette nouvelle loi travail qui est de plus en plus injuste. Ça ressort comme ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça, c'est un mot qui est. Moi, je viens d'entendre par Monsieur Nègre et on peut que suivre, mais c'est une dette d'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas la SNCF et encore moins les cheminots qui ont décidé de faire cette ligne de TGV Est, par exemple, qui vous emmène à Strasbourg en 1h30, et surtout dans des gares où vous avez personne qui monte dedans, tout ça pour qu'un député ou un maire inaugure sa gare avec le ministre. À l'époque, on a eu Madame Hydra qui est Monsieur Fillon qui vient en hélicoptère pour une inauguration d'un train, ce qui est quand même assez exceptionnel. On se retrouve dans des trucs comme ça. C'est, enfin, moi, si vous voulez faire de la démagogie du populisme, je peux vous en remettre aussi une couche, hein, y a pas de problème. Ce que je trouve inadmissible, c'est d'associer cette dette au statut des cheminots. C'est ridicule. Les statuts des cheminots aujourd'hui, c'est un statut qui a été attaqué depuis des années. Moi, le premier. Je suis rentré à SNCF à 28 ans. J'ai travaillé dans le privé, dans le domaine du transport de marchandises dans les camions avant. Je suis rentré à SNCF à 28 ans. Je reçois mon décompte en début d'année en m'expliquant jusqu'à temps je dois travailler pour toucher une retraite à taux plein que j'aurais mérité parce que j'ai toujours travaillé à la SNCF. J'ai fait les 3-8 jusqu'au 13 novembre 2015. Et 42 ans et demi. Bing, 70 ans, c'est réglé. Donc moi aujourd'hui, me dites pas que le cheminot part à 52 ans comme j'ai vu voir dans la presse ou 57 ans. Tout ça, c'est plus possible, ce n'est plus vrai. Donc à un moment donné, si on parle de la dette, on fait pas de démagogie en disant que le statut des cheminots va tout résoudre.
Gilles Dansart, peut-être que cette proposition du président de la République, c'est aussi une façon de rendre un peu plus appétissante, si c'est une entreprise SNCF, en tout cas cette question du ferroviaire français pour la concurrence qui arrive. Parce que cette question du statut des cheminots, elle va bien finir par se poser. Il va y avoir des cheminots qui vont se retrouver à travailler pour des opérateurs privés, non, si on ouvre à la concurrence?
Ah, forcément. Vous pourrez avoir dans une entreprise, par exemple, privée, des cheminots qui viendront de la SNCF, parce qu'ils exploitaient avant la ligne qui a été privatisée ou soumise à appel d'offres. Et puis vous aurez d'autres cheminots. Enfin, considère par le terme cheminot celui qui travaille sur le rail, qui n'auront pas le statut SNCF. Donc, va forcément y avoir des frottements. C'est tout l'objet des détails de la proposition de loi des sénateurs Moret et Nègre. Mais c'est extrêmement compliqué à résoudre. On peut considérer aujourd'hui qu'il faudrait remettre à plat le statut. On pourrait. Pourquoi pas? Mais dire à des cheminots qui ont signé un contrat de travail, on va le modifier. Je crois qu'il y a peu de Français qui seraient capables d'entendre ça. Donc le deal du président Macron, il est pas populaire du tout à la SNCF, et quelles que soient les catégories, y compris chez les cadres. Et il faut aussi dire qu'à l'intérieur de la SNCF, il n'y a pas que des cheminots au statut. Il y a aussi de plus en plus de contractuels. Donc est-ce qu'il faut une remise à plat en vue de la concurrence pour que les Français accepte un petit peu mieux un certain nombre de choses? Je ne sais pas, c'est des choses qui sont éminemment politiques et sociales, mais en tout cas, c'est une bombe à retardement, et d'avoir imaginé ce deal, d'ailleurs sur une dette qui n'est pas à l'origine de tous les maux de la SNCF, faut pas non plus l'exagérer, c'est un vrai risque politique qu'il a pris.
Qu'est-ce que vous proposez, Louis Nègre, par rapport justement aux cheminots dans votre proposition de loi? Ils gardent leur salaire, ils gardent leur statut.
Ils gardent leur salaire, ils gardent les facilités de circulation, ils gardent les droits de la retraite et ils gardent la garantie de l'emploi.
Qu'est-ce qu'ils perdent alors?
Ce qui n'est pas nul, quoi. Ben, il y a toute une série d'autres avantages.
Les règles d'organisation du travail, vous dites, seront définies par les entreprises.
Les règles d'organisation du travail seraient, à ce moment-là, dépendantes du nouvel entrant, qui aura sans doute des conditions de travail qui seront plus productives. Puisqu'on constate en France, par exemple, qu'un train circule à peu près la moitié de ce qu'il fait annuellement par rapport au train allemand. Là aussi, il y a une surprise. Vous mobilisez du capital et ce capital dort.
Donc vous allez dire aux conducteurs, vous allez conduire des trains deux fois plus dans votre mois, par exemple.
Deux fois plus, je sais pas. On restera dans les normes légales françaises. On va pas dépasser les 35 heures si c'est la norme. Par contre, il va y avoir une productivité du travail incontestable. Ce qu'on constate en Allemagne, c'est que l'introduction de la concurrence a stimulé l'opérateur historique national qui est devenu beaucoup plus performant. Et aujourd'hui, et là je rejoins tout à fait le journaliste, monsieur Dansart, aujourd'hui le marché ferroviaire allemand a augmenté, son périmètre est plus grand. Bon, donc la concurrence n'a pas effondré l'historique, a développé le ferroviaire, tout ça à moindre coût pour le contribuable, moi je prends.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que cette ouverture à la concurrence dans d'autres pays européens, Gilles Dansart, elle s'est faite aussi au profit de la SNCF? La SNCF n'opère pas uniquement en France, elle opère aussi à l'étranger aujourd'hui.
Les filiales de la SNCF opèrent des trains en Allemagne. Par exemple, Keolis, filiale de la SNCF, a gagné des appels d'offres en Allemagne et dans d'autres pays. Sur la question de la compétitivité et de l'organisation du travail, c'est sûr que des opérateurs privés pourraient imaginer d'autres formes d'organisation du travail. On voit souvent les choses sous l'aspect salarial, avantage, etc. L'organisation du travail, c'est une grande partie, à mon sens, de ce qui explique les lacunes en qualité de service et en performance économique de SNCF. Je prends un exemple. Aujourd'hui, un conducteur ne fait que de la conduite. Un contrôleur ne fait que du contrôle.
Il faudrait qu'il fasse de la maintenance.
Des opérateurs privés, à l'étranger comme en France, imaginent ce qu'on appelle la polyvalence. Alors c'est assez mal vu des syndicats la plupart du temps parce qu'ils considèrent que c'est une façon déguisée de faire la course à la productivité. Mais on peut aussi imaginer que ça rompt la monotonie, que sur certaines lignes, un conducteur qui peut faire un peu de supervision, finalement, est-ce qu'il s'en trouve si mal? Il y a une ligne en Bretagne exploitée par un concurrent de la SNCF qui s'appelle Transdev, où les conducteurs ne font pas que de la conduite, ils font aussi autre chose. Alors, je ne fais pas l'apologie de la polyvalence à tout prix, mais on peut imaginer que des opérateurs privés peuvent imaginer des organisations du travail un peu différentes et qui, du coup, génèrent un peu plus de productivité.
Un jour conducteur, un jour contrôleur, un jour mécano, je ne sais pas.
Bruno, un jour sénateur, avec un peu de chance, ça serait parfait, peut-être. Non, mais là, je trouve ça très aberrant, parce qu'il faut faire très attention. Aujourd'hui, les conditions de travail des cheminots découlent souvent, c'est-à-dire d'accidents qu'il y a eu ferroviaires. On en a tiré les leçons et après, on s'est dit, peut-être qu'un conducteur de train, si vous vous faites conduire 8 heures de nuit, par exemple, et bien là, vous prenez un risque. Et bien, c'est exactement ça. Moi, pour l'avoir fait, parce qu'à un moment donné, j'ai accompagné des amis et dans le travail d'avoir fait des horaires de nuit. Moi, j'ai fait des horaires de nuit toute ma vie. Je peux vous garantir que conduire un train, c'est hyper compliqué la nuit parce que déjà, vous voyez rien. Donc, ce qui fait qu'il faut une très grande vigilance. Et ça, si vous élargissez, c'est-à-dire que si vous faites, par exemple, alors je parle pour un conducteur de train fret, vous lui faites accrocher sa rame avant, donc c'est du travail. Et puis, il faut bien le voir, moi qui viens de transport routier, il y a beaucoup de tâches annexes qui ne sont pas considérées comme du travail, donc on les paye pas. Et ça serait ça aussi un petit peu l'envie, parce que pour tirer un peu sur les prix, pour arriver à la concurrence, nous on le voit, ECR tire des trains en ce moment en France, des trains de fret, avec des conducteurs qui effectivement accrochent leurs wagons, font quasiment tout. Ouais, pour 700-800 euros. Eh ben, ouais, ok, d'accord. Et c'est ça que vous voulez en France? C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, vous voulez du dumping social? C'est-à-dire qu'afin d'arriver à une espèce de concurrence qui pourrait devenir pour vous le paradis, ça serait de faire du dumping social et de dire comme en Allemagne, il n'y a pas de salaire minimum. Donc, aujourd'hui en Allemagne, vous n'avez plus de personnes réelles cheminotes qui appartiennent à l'ADB, qui sont salariées par l'ADB, pour accrocher les trains. Ce sont des entreprises d'intérim ou autre chose, à 300 euros par mois. Si c'est ça que vous voulez.
D'un mot, Gilles Dansard.
Il y a des métiers très pénibles à la SNCF, le travail de nuit, le travail en atelier de maintenance, etc. On peut tout à fait imaginer, quand on parle de polyvalence, qu'on puisse faire 3 mois de conduite et puis après, pendant un certain temps, avoir des horaires plus réguliers dans un autre métier. La polyvalence, c'est pas forcément tout faire en même temps. C'est d'autres organisations du travail sur la durée. C'est ça que l'innovation sociale, ce n'est pas forcément un gros mot. On peut aussi imaginer des choses qui ne vont pas contre la sécurité et la qualité de vie des cheminots.
L'émission passe très très vite ce soir. Louis Nègre, il y a un aspect que j'aurais quand même voulu aborder, même s'il nous reste très peu de temps. C'est la question de la filialisation au sein de la SNCF. Il y a des centaines de filiales qui existent aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que certaines auraient vocation à sortir du giron de la SNCF et qu'il faudrait profiter de l'ouverture à la concurrence pour les en faire sortir et les donner, disons, au secteur privé?
Non, vous posez mal la question, si vous me permettez, dans la mesure où ce que je recherche, c'est pas à faire de la concurrence pour de la concurrence. Je cherche à amener un service le meilleur qui soit à l'usager. On parle jamais de l'usager. On parle des institutions, on parle des corporations, on parle jamais de l'usager. Tout le système repose sur l'usager. C'est lui qu'on doit mettre au centre. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que les Français, encore une fois, je le répète, sont le pays en Europe, sur 28 pays, le plus taxé. Donc, comment peut-on produire mieux et à moindre coût? On sait faire, on a un certain nombre de pays autour de nous qui l'ont fait. Je connais pas de cheminots en Allemagne qui soient dans une situation difficile sur le plan social. Donc, on est capable d'avoir un haut niveau social et d'avoir une productivité, une compétitivité élevée.
Bon, alors, puisque vous ne voulez pas répondre à ma mauvaise question, je vais la reformuler différemment. On verra si elle inspire davantage Bruno Poncet. Est-ce que vous considérez que ce mouvement de filialisation que le grand public et que les voyageurs, le public ne connaît pas, je pense, certainement pas dans les détails, mais même dans son ampleur, c'est une façon aussi d'apporter de la privatisation? C'est-à-dire, quand on filialise, on permet la privatisation, c'est-à-dire on peut se défaire d'une filiale. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses, vous, à Sudrail?
Non, évidemment, parce que là, aujourd'hui, vous avez un exemple qui vient juste d'être ouvert début juillet, ça s'appelle le T11. Le tramway à Paris, c'est la ligne 11.
Entre Le Bourget et Épinay-sur-Seine, je crois.
Épinay-sur-Seine, voilà, c'est exactement ça, qui est géré par Transkeo, qui est une filiale de la SNCF.
Et ben, ce qu'on a filiale vu de droit privé, je crois.
Hein. Exactement. Et ben, ce qu'on a vu dernièrement, ce sont que les collègues qui travaillent là-dedans, à des salaires moindres que des cheminots, parce que c'est comme ça aussi le dumping social, c'est des collègues qui, quand ils avaient fini leur temps de travail effectif, c'est-à-dire comme dans le routier, vous avez un temps de travail effectif, ensuite un temps de pause, ils allaient faire des pauses dans les endroits où il n'y avait ni toilette, il n'y avait pas de siège, il n'y avait rien du tout. Donc ils se sont mis en grève au bout, allez, je ne veux pas vous dire de bêtises, 3 semaines. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, voilà la réponse de la SNCF avec ses filiales, ce qu'elle voit, c'est du dumping social, il n'y a pas d'autre solution.
Juste un mot, Gilles Dansard, pour conclure.
Juste un mot, si je peux me permettre, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on donne comme stratégie à la SNCF? Soit on lui dit tout faire, le porte-à-porte, on va faire du covoiturage, on va faire du vélo, on va faire du train, on va faire du tramway, etc. Ou alors on la recentre sur le métier de transport de masse. C'est la vraie question plutôt que celle des filiales.
Voilà, plein de propositions, de nouvelles questions et donc plein de nouvelles émissions à venir pour parler de cette question passionnante du ferroviaire. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'y avoir participé. Louis Nègre, Bruno Poncet et Gilles Dansard. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Isolte Sicard, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Eva Pellerin. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Pierrick Monsigny. Arnaud Laporte, dans un instant, on va vous retrouver pour la dispute, n'est-ce pas?
Je ne peux pas vous le cacher, mais alors je suis admiratif. Vous connaissez votre dossier SNCF sur le bout des doigts. Parce que ça a dû faire plaisir à Brice Couturier, grand amateur, on le sait, des trains. Non. Il a fait tellement de billets sur ses retards de train,
le matin, ça y est,
l'ami Brice, que bon, voilà. Demain, le Grain à Moudre.
Ah bah, autre sujet que je connais très bien, les beaux quartiers, comment les dégentrifier? Eh bien, ce sera la question qu'on posera à partir de 18h20.
Ah ben, si vous avez la réponse, je serai là pour l'écouter. Évidemment, 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.